Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, un épisode un peu saveur Noël où aujourd'hui je suis accompagné de Cyril qui est descendu de sa montagne et qui va jouer le rôle du Papa Noël avec moi aujourd'hui. Salut Cyril, comment ça va?
Bonjour, ça va et toi?
Ça va. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est deux, on va faire un petit pêle-mêle de nos lectures récentes, donner nos avis et surtout en débattre. Et on espère que vous apprécierez ce petit épisode qui va changer des autres podcasts habituels. Je te propose de démarrer par un titre qui est sorti tout récemment, début décembre, où j'ai pu commencer à doucement le teaser sur le dernier Chronicle format court avec Murder Falcon. C'est un titre de Daniel Warren Johnson. C'est le deuxième podcast où je dis le nom de cet auteur sans me tromper. Je pense que je suis assez fier de moi.
Félicitations.
C'est ça. Et on n'a même pas réenregistré, c'est ça le pire. Du coup, on parle de Wonder Woman Dead Earth, dispo chez Urban Comics, dans la gamme Black Label. Moi, je l'ai lu. Cyril n'a fait que feuilleter, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, tu ne dis pas de bêtises, je n'ai fait que feuilleter parce que au départ, j'ai dépassé tout à fait à côté. Et c'est la chronique de Lamélis sur le blog qui m'a donné envie de le lire.
C'est une bonne chose, une chronique utile. Du coup, sur ce titre, en fait, on a une revisite de Wonder Woman. Enfin, pas tant une revisite. On a une Wonder Woman qui, dès le départ, va se réveiller dans un univers post-apocalyptique. Pardon. Celui-là, j'ai fourché. Dommage pour Daniel Warren Johnson. Donc, on a Wendy qui se réveille suite à un incident qui entraîne un peu des survivants au fin fond d'une grotte, hein, poursuivi par un gros monstre qui a plutôt envie de faire de leurs 4 heures ces derniers survivants. Et ils vont réveiller Wonder Woman qui sort d'une capsule de stase. Très vite, on va comprendre que cette capsule de stase, en fait, elle est dans feu la Batcave et va en sortir Wonder Woman qui en deux ou trois grosses patates va exploser littéralement cette espèce de monstre et on va partir de ce postulat là où on a Wonder Woman qui se réveille et qui va essayer de se souvenir pourquoi elle était dans cette capsule de stase et qu'est-ce qui a mené à la situation et le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, de ce que tu as feuilleté, parce que tu ne l'as pas lu, et je ne veux pas dire non plus, tu as eu quoi comme impression sur les pages que tu as feuilletées?
Alors moi déjà, à la base, donc, c'est du Black Label, ce qui, à mon avis, est un gage de qualité et de maturité pour un titre de chez DC Comics. De ce que j'en ai lu, bon, j'ai essayé d'éviter au maximum de lire les bulles de dialogue et puis de vraiment m'attarder, mais surtout au niveau du dessin, j'ai eu l'impression de retrouver un peu de Frank Miller sur certaines pages, sur certaines postures de Wonder Woman. Donc déjà, tu vois, on est sur du titre qui s'adresse à un public adulte. Alors moi, si je me rebase également sur la chronique de Lamélis que j'ai lue et que j'ai relue, qui apparemment trouve que c'est une Wonder Woman qui va un peu à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. Moi, j'aime bien la Wonder Woman normale qu'on voit dans la série régulière. Je trouve que c'est sympa. C'est une héroïne qui défend des valeurs qui sont toujours d'actualité, qui sont intéressantes. Ce titre, par contre, se rapproche un petit peu sur certains aspects du film Wonder Woman, du premier, vu que le 84 n'est pas encore sorti, il va pas tarder. Mais voilà, ça a l'air intéressant, ça a l'air de... Il n'y a pas de parti pris. Enfin, l'auteur, Daniel Warren Johnson, se permet de jouer avec le personnage et de vraiment donner une interprétation très mature de cette aventure. Et franchement, ça donne vraiment très très envie.
Pour ce qui est du côté mature, en fait, on est clairement dans ça. Moi, ce qui m'a fait plaisir sur ce titre, c'est que pour une fois, on n'a pas encore une origin story avec la Wonder Woman qui vient de Themyscira, avec sa rencontre avec Steve. Voilà, tout ça, exit. Il s'est passé une catastrophe. Wonder Woman, elle a vécu. Elle a connu Batman, elle a connu Superman, elle a connu tout le monde. Et elle, elle est toujours vivante. Pourquoi ? Comment ? On va le découvrir au fil de son aventure. Graphiquement, comme tu le disais, il y a des côtés Frank Miller sur certaines postures et certaines cases. Après, on ne va pas se mentir, Daniel Warren Johnson, il a un style ultra dynamique. Quand il y a de la baston, ça va à 10 000. Vraiment, on ressent vraiment la puissance et tout. Moi, j'ai trouvé ça complètement fou. Après, j'ai un petit penchant pour le monsieur, parce que déjà, ce qu'il a fait avant, notamment sur Extremity chez Delcourt, ou toujours sur Delcourt ben, avec le Murder Falcon aussi, c'est quand même graphiquement très très parlant. On pourrait presque se laisser porter par l'aventure sans bulle, tant c'est simple. J'aime assez aussi le côté qu'on a de Wonder Woman qui est en quête un petit peu de, pas de rédemption, mais qui cherche un petit peu pourquoi elle est ici, qu'est-ce qui s'est passé, et qui, au fil des chapitres, va découvrir et va rassembler les pièces du puzzle qui manquent. Et on arrive à une fin qui est quand même très très chouette, et des passages sur lesquels moi je ne m'y attendais pas du tout. Moi je vous invite aussi, je vous donne un petit peu mon avis, là, on va pas trop en dire, déjà parce que je voudrais pas spoiler Cyril ou les autres lecteurs.
C'est gentil,
on a la chronique de l'Amélie qui est dispo, donc vous pouvez aller la lire, vous avez aussi mon avis ici. Mais clairement, c'est un titre DC Black Label que moi je recommande, mais 20 000 fois Wonder Woman. L'avantage, et qui n'est pas négligeable, c'est que c'est un one-shot, il n'y a pas besoin de connaître tout l'univers et tout le background du personnage. On le prend, on le lit, on a une aventure qui dépote, et ça suffit, quoi.
Ouais, écoute, c'est déjà ce qu'on demande à un titre, et puis c'est vrai que là, je vois qu'il est au prix de 19 euros. Pour un cadeau de Noël ou pour un petit pour se faire plaisir tout bêtement, moi je pense que c'est pas mal et que je ne vais pas tarder à aller voir mon libraire.
Et l'édition est très bien foutue. Moi je suis allé la chercher. Enfin, c'est un format un petit peu carré. Donc ils ont respecté le format original, qui lui aussi est un format carré que j'avais pris moi quand c'était sorti. Et j'avais beaucoup beaucoup aimé la mise en page de Daniel Warren Johnson justement sur ce format carré. Et le rendu est très bon en VF, donc pourquoi se priver ? D'ailleurs, t'en parler, c'est une bonne idée de cadeau de Noël, et quand vous écouterez ce podcast, il y a un post épinglé avec un petit peu une liste de tous les chroniqueurs qui vous proposent une petite sélection d'idées de cadeaux de Noël. Comme c'est pas encore Noël et que vous pouvez toujours faire des cadeaux, on vous aide un petit peu. N'hésitez pas, vous pouvez jeter un œil, ça sera épinglé dès l'accueil. Moi, je te propose de continuer avec un titre totalement différent cette fois. On va partir du côté de Vestron et leur gamme de xénomorphes, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, des xénomorphes.
Donc, on va parler du Alliance Rescue et je vais te donner la parole pour nous présenter un petit peu ce titre.
Alors, Alliance Rescue, c'est donc publié par Vestron dans la collection Brian Wood, où il y a également plusieurs titres qui sont déjà parus chez eux, dont le Alliance Resistance et le Alien Défiance. Mais il se trouve que ce Alliance Rescue est la suite de ces deux tomes, et que c'est la fin de l'incursion de Brian Wood dans l'univers des Aliens. Ce titre, donc Brian Wood au scénario et Kieran McCown, bon, je vais pas dire, c'est pas grave, au dessin. Donc ça se situe après Résistance et ça prend un petit peu les mêmes protagonistes. Donc on a en premier Alec Brandt, qui est le garçon qu'on voyait auparavant, qui a grandi, qui est devenu depuis un colonial marine. On a bien sûr l'incontournable Ripley et également Zula Hendricks, qui est un personnage qui a été introduit un peu plus tôt. Donc ces trois dégommeurs d'aliens vont se retrouver pour justement dégommer de l'alien. Et pour ce faire, ils vont se rendre sur une planète qui pourrait être idyllique, qui ressemble beaucoup à la Terre et qui pourrait la remplacer au niveau de la colonisation si elle n'était pas infestée des fameux xénomorphes. Bon, comme d'habitude chez Vestron, on a le format comics souple avec la couverture cartonnée. Bon, il n'y a pas de
surprise.
Pas de surprise, c'est le papier de qualité. Enfin voilà, moi j'aime bien leur production. J'en parle souvent sur le blog. J'aime bien l'univers Alien, je trouve que sur ce troisième volet de l'incursion de Brian Wood chez les Aliens, on a un scénario qui se réduit à la taille d'un timbre-poste. Alors, pour les plus jeunes, un timbre-poste, c'est ce qu'on colle sur une lettre pour envoyer un vrai courrier papier par la poste. C'était ce qui existait avant les emails. Mais, voilà, on a l'impression que Wood ne s'est pas foulé sur le titre. Il a pris les protagonistes qu'il avait déjà introduits auparavant. Il les a balancés dans un nid d'alien pour jouer au dératiseur. Et ça s'arrête à peu près là. C'est une histoire qui se voit sur beaucoup de titres aliens. C'est même assez récurrent. Le nid à nettoyer, les coloniales marines qui y vont, certains qui sont dessoudés. Voilà, le titre ne m'a pas convaincu, tant au niveau de l'intrigue que des interactions entre les personnages. Même les dialogues, finalement, c'est assez plat.
Je te rejoins là-dessus. Moi, je l'ai lu également. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de Alien. J'avais beaucoup aimé le Alien Dead Orbit, dont j'ai perdu le nom en VF, qui est aussi dispo chez Vestron. Je l'avais chroniqué justement parce que j'avais beaucoup aimé, c'était Gabriel Hardman qui était dessus.
Oui.
Et du coup là je suis allé voir ce dernier tome en ayant lu les premiers mais sans trop les avoir en mémoire, et je t'avoue que aussi vite lu que aussi vite oublié.
C'est ça.
En plus moi j'ai eu un vrai problème sur la partie graphique, c'est que à aucun moment tu sens les personnages, tu as de l'empathie pour les personnages, et en fait ils ont l'air figés quoi. Ils dégomment des xénomorphes, ok, très bien, mais on dirait un plot qui est là avec une mitraillette. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça m'a un peu gêné. Il y a quelques plans jolis, particulièrement avec les xénomorphes quand tu les vois apparaître, mais c'est relativement nul. C'est pas un tome que je conseillerais, tu vois. Moi pour un bon Alien je me suis régalé, je recommanderais le Dead Orbit pleinement comparé à ça.
Donc dans la gamme Alien, je conseille beaucoup plus la série Prometheus qui est actuellement en cours de publication chez Vestron et qui est beaucoup plus intéressante. En plus des aliens, il y a des prédateurs dedans. Le scénario est un peu plus fouillé. Et puis, vous verrez, enfin, si vous lisez également les chroniques sur le blog, il y en a certaines qui ont été déjà chroniquées, d'autres vont venir. Voilà, dans le cadeau de Noël, je pense que dans la série Alien, Prometheus est beaucoup plus intéressant que ce Aliens Rescue qui est totalement dispensable.
On est d'accord sur ce tome 3. Du coup, je te propose d'enchaîner sur une autre lecture qui va totalement trancher autant sur le plan graphique que sur le plan scénaristique. On va parler de Once and Future de Karen Gillan, Dan Mora. Pour remettre en situation, en fait, Once and Future, il est rapidement présenté dans le premier chapitre. On retrouve Duncan, qui est un date calamiteux, qui est appelé en extrême urgence par la maison de repos de mamie, parce que mamie, elle s'est barrée. Du coup, Duncan, il est gentil, il aime sa mamie, et bien il va lâcher son date dire gentiment qu'il faut sauver mamie. Heureusement, la demoiselle est très compréhensive, peut-être qu'elle veut aussi écourter ce date de l'enfer, et elle le laisse partir. On va donc retrouver Duncan qui récupère mamie dans la forêt. Et très vite, les choses vont s'envenimer avec Duncan qui va se retrouver nez à nez avec un monstre mythologique à tête de serpent et à ventre de chien. Mais heureusement, mamie est là pour lui sauver la peau et elle va sortir de nulle part, au milieu de la forêt, une cache d'armes qui pourrait faire pâlir n'importe quel QG militaire.
Oui, c'est un peu ça, c'est une mamie punisseur.
Carrément. Très vite, on va avoir le scénario qui accélère. Parce que, en fait, c'était une mini qui était prévue en 6 au début, il me semble. Et on a donc très vite, on est mis dans le bain où la mamie nous explique que les contes et légendes autour du roi Arthur qui a massacré les Anglo-Saxons ne sont pas que des contes et des légendes, et que y a un ordre secret qui veut faire revenir en gros le roi Arthur, et Duncan et Mamie, ils vont devoir faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher.
Au retour d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, ou du moins, s'ils ne reviennent pas en tant que tels, ils se réincarnent. C'est bien, franchement, c'est bien foutu, c'est intelligent. Le scénario est sympa, ça se laisse lire. Bon, voilà, moi, j'en garde pas un souvenir impérissable, c'est pas le titre qui va me transporter. C'est bien foutu, mais voilà, certains personnages me dérangent. Duncan, qui est un peu le neuneu de service, qui subit tout ce qui lui tombe sur le nez.
Le courroux de Mamie.
Ouais, c'est ça. Si on parle de Rose, là, je crois qu'elle est linguiste, un truc comme ça, qui est également son date, dont tu parlais au début, qui n'est pas super intéressante. Moi, dans ce bouquin, franchement, ce qui m'a le plus fait triper, c'est la Mamie.
On est d'accord.
La Mamie, elle est excellente.
La Mamie est excellente. Et après, tu parlais de Kieron Gillen, justement, mais il faut aussi qu'on parle de Dan Mora, parce que moi, je trouve que le point fort de ce titre, c'est quand même les dessins, qui sont assez fous. Et enfin, graphiquement, la Mamie avec une mitraillette, non, mais ça dépote. C'est vraiment... Et même, je trouve que la personnalité qu'elle a, tu vois, un petit peu... ouais, c'est badass Mamie, quoi, en fait. Hein.
C'est ça, c'est Mamie badass.
Elle n'hésite pas à faire la misère à Duncan. Elle est autoritaire avec Rose. Hein. Enfin, c'est elle qui est aux commandes et elle compte pas les lâcher, quoi. Et...
C'est ça. Le personnage porte le titre, quand même. Hein. En soi, le pitch du scénario bon, se laisse lire. Il y a quand même derrière une espèce de fierté britannique. Alors, je ne sais pas si Kieron Gillen est britannique ou pas, mais on sent derrière une fierté britannique se raccrocher à leur passé, ou du moins à cette légende du roi Arthur. Mais Mamie qui est derrière, c'est énorme. Enfin, la Mamie, elle est... Et comme tu disais, le dessin de Dan Mora, outre la Mamie revolver, est quand même super dynamique, sont très précis. Et ça apporte beaucoup au bouquin.
Oh, ben complètement. Pour les curieux, Dan Mora, il a fait les couvertures du crossover Tortue Ninja Power Rangers. Il a fait aussi la série Go-Go Power Rangers. Et c'est lui qui est à l'intégralité du dessin de Klaus. Donc, c'est quand même de très bonne facture. On va pas se mentir.
Non, le dessin est très
bon. Pour répondre à ta question, Kieron Gillen est britannique. Donc, c'est pas anodin, on va dire. Mais globalement, moi, j'ai passé un bon moment. On sent quand même que c'est pas une série qui peut aller très loin. Ouais, moi, je pense, et je veux pas dire de bêtises, qu'elle est prévue en 3 tomes, il me semble.
Oui, c'est ça, 3 tomes. Voilà.
Et je pense que c'est la durée qu'il lui faut, parce que plus, ça aurait délayé et... Déjà que certains personnages manquent un petit peu de consistance par moment, ça aurait été difficile. C'est...
Je pense qu'effectivement, plus que 3 tomes, la série se perdrait, sachant que le tome 1 peut être lu en stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter facilement à la fin du tome 1. Il y a quand même une fin qui reste ouverte, mais voilà, on peut s'arrêter là si on veut, ou poursuivre avec le tome 2 qui devrait sortir dans quelques temps chez Delcourt également.
Ouais, moi, ouais, je recommande, voilà, c'est quand même une lecture qui est sympa, surtout graphiquement et pour la Mamie. Après, est-ce que c'est un incontournable ou quoi? Je dirais pas ça. Si vous êtes fan de Dan Mora, oui, parce que graphiquement, ça tue. Et après, si la revisite du mythe arthurien vous saoule un peu ou quoi, vous pouvez passer, mais... Moi, j'ai passé vraiment quand même un bon moment là-dessus, quoi. J'aime assez...
Je suis d'accord avec toi, on passe un bon moment à la lecture. C'est, voilà, comme tu disais, les fans de fantasy, de trucs comme ça, c'est bien.
C'est un bon petit truc. Enfin, genre, si t'en fais un cadeau, la personne, elle passera pas un mauvais moment, et elle sera pas forcément déçue, à moins qu'elle puisse pas... qu'elle puisse pas voir tout ce qui est chevalier et tout. Globalement, c'est un bon cadeau. Voilà. Moi, je recommande quand même.
Allez, on le coche dans la liste des cadeaux de Noël.
Allez, dans les cadeaux plus.
Oui.
Sur un tout autre registre, hein, on va cette fois passer sur un peu de VO avec un titre de chez Marvel. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu de Marvel et on s'était pas mis d'accord pour ce numéro-là. Moi, j'y suis allé pour la cover parce qu'il s'agit de Wolverine Black, White and Blood. Vous admirerez encore une fois mon superbe accent dont vous me faites la remarque à chaque fois sur les internets. Je me suis arrêté sur ce titre justement pour la cover qui est justement Black, White and Blood. On a donc un Wolverine vraiment bestial qui dégouline de sang en noir et blanc et vraiment mis en valeur par tout le rouge, un rouge sanguin, quoi. Et c'est pour ça que j'y suis allé. Moi, j'avais pas du tout regardé les sollicitations ou quoi. Mais c'est Wolverine, ça faisait longtemps. C'est un titre qui est hors continuité, donc ça m'a donné envie d'y aller. Je te laisse nous le présenter rapidement.
Oui, oh ben rapidement, ça va être facile. Donc, comme le dit le titre, c'est en noir et blanc avec des touches de rouge. Je dirais que c'est pas du Sin City, mais on s'en rapproche. Pas dans l'aspect graphisme, mais dans l'aspect du parti pris, justement, graphique. C'est une mini-série au format anthologie, qui est donc entièrement consacrée à notre petit griffu préféré. Donc, dans chaque numéro, enfin, du moins dans le numéro 1, parce que pour l'instant, uniquement le numéro 1 est sorti. On a trois histoires d'une dizaine de pages chacune à peu près, avec un début, une fin, et qui se situe chaque histoire se situe à un moment différent de l'histoire de Wolverine.
C'est un peu
La nouveauté.
un peu à l'image des X-Men Grand Design en fait.
Un peu l'image d'X-Men. Dans X-Men Grand Design, je revisite l'histoire des X-Men sur certaines périodes. Là, c'est vraiment des petits points de détail. Si on prend la dernière histoire du numéro 1, il n'y a pas vraiment de lien avec ce qui est déjà arrivé dans d'autres histoires de Wolverine. Je pense que c'est plus voilà, le format anthologie, comme on avait eu Batman Black and White à une époque, comme ils ont fait il n'y a pas très longtemps chez DC, une Harley Quinn aussi, Black, White and Red. Donc voilà, c'est vraiment un petit format anthologie, Marvel Comics Presents, ce genre de truc-là.
Moi j'ai beaucoup aimé déjà le parti pris. Graphiquement, il faut le dire, on a plusieurs équipes créatives. Sur la première équipe, on a Gary Duggan, Adam Kubert et Frank Martin en coloriste. Sur la deuxième équipe, on a Matthew Rosenberg, Joshua Cassara et Guru FX. Et sur la dernière, c'est Declan Chalvet qui fait tout.
Il fait tout, il fait même la colorisation, il fait tout.
Ouais, c'est ça. Bon, clairement, Adam Kubert, sur la première histoire, c'est quand même super fouillé, c'est super beau. J'adore,
Bon,
moi,
bah, je suis.
la mise en page de la double page, tu sais, où c'est plein de petits carrés, plein de petites images. Je
Oui.
crois que c'est la page 2 ou 3 de la première histoire. Et je trouve que ça fonctionne super bien, la manière dont est disposé le gaufrier, bien que ça soit pas plus trop un gaufrier, mais j'ai beaucoup aimé. Le reste, j'ai pas tout aimé parce que graphiquement, c'est pas forcément mes dessinateurs préférés, mais il y a toujours cette ligne directrice noir, blanc et rouge, du coup, et ça fonctionne plutôt bien. J'étais plutôt content de retrouver vraiment un Wolverine plutôt plus dans le sens un peu mode bête hein, et vraiment tel qu'il est à l'origine, hein, plutôt que le dernier Wolverine qu'on a eu dans les derniers numéros de Marvel, quoi.
Ouais, c'est un peu ça en fait. La nouveauté sur ce titre, enfin du moins qui se démarque de la production Marvel, c'est que la violence est graphiquement explicite. Donc effectivement, il y a du sang qui revient dans le blood du titre. Et Wolvie découpe à peu près tout ce qui lui passe sous la griffe. Donc il y a de la tripe, il y a du sang, il y a des gens coupés en deux, carrément au sens propre du terme. Enfin voilà, il y a des membres qui volent. Là, c'est pas des robots, c'est vraiment des vrais gens. Qui saigne avec des morceaux de boyaux qui dépassent. Donc moi, je dois dire que le parti pris de prendre un Wolverine vraiment bestial, vraiment violent, il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, voire à ce point-là jamais. Et rien que sur ça, le titre est intéressant. Je rebondis également sur ce que tu disais sur la première histoire par Adam Kubert. Le graphisme, c'est une vraie bombe. plus que la double page gaufrier. Alors j'ai spoilé un petit peu, mais moi c'est la double page où Wolverine se fait sauter dessus par le Wendigo.
Ouais, complètement.
C'est énorme. Enfin, rien que ça, c'est.
Ah, mais c'est.
Voilà, c'est tout l'art de couverte au son paroxysme.
C'est tout détaillé, c'est vraiment au millimètre. Tu peux prendre une loupe et tout, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé cette histoire vraiment fouillée au niveau du détail et du dessin. Ça m'a vraiment fait plaisir de lire un Wolverine comme ça. Presque, tu vois, un peu de déception quand j'ai vu que c'était pas la même équipe créative sur les deux autres histoires. Mais Kubert, il peut me faire un Wolverine de 60 pages noir, blanc et rouge. Je prends tous les jours, en fait.
Alors bah oui, moi c'est pareil, je signe. Enfin, rien que pour cette première histoire, ça vaut le coup d'acheter le titre ou de le télécharger en VO. Hein. Mais voilà, rien que cette première histoire pour le côté graphique, le scénario est moyen. Enfin voilà, il s'intéresse plus au côté arme X. C'est à l'époque où Wolverine était l'arme X. Voilà, le scénario est moyen, le dessin est une tuerie. C'est vrai que les autres histoires sont un peu en dessous, sont même carrément en dessous au niveau graphisme. Néanmoins, moi j'aime bien la seconde, où Wolverine est. C'est l'époque où il était espion, qui travaille avec Fury. Alors, pas le Fury qu'on a actuellement, mais l'ancien, celui qui ressemble à David Hasselhoff. Mais voilà, c'est un scénario à tiroir, il y a des retournements. C'est. Bon, mis à part la fin, le dernier twist de fin là, qui ne m'a pas plu, mais voilà, c'est assez sympa.
Mais je suis assez d'accord. Après, je suis pas loin de parier qu'une fois la mini-série entièrement dispo, on le verra arriver en VF, parce que c'est Wolverine, parce que ça peut être quand même digne d'une belle édition si tout est dans le même style et que c'est assez qualitatif. Ça peut faire un joli bouquin, je pense.
Ça peut faire... Ouais, effectivement, ça peut faire un volume complet VF. Je crois que la mini est prévue en 4 numéros. Hein. Ça peut faire un volume complet. Si, voilà, faut une belle édition derrière, justement, pour pouvoir profiter du dessin en noir et blanc et rouge. Mais je pense que Panini va nous le sortir de toute façon en français d'ici 6 mois, un an.
Bah, j'espère.
Une fois la série terminée.
Je laisserai probablement une chance, tu vois, au recueil complet, un peu format anthologique comme ça, parce que ça mérite, je trouve.
Oui, je pense que moi aussi, je pense que pour Noël 2021, ça risque de faire un beau cadeau.
toujours en VO, là, moi, je t'ai proposé un titre qui a été un vrai coup de cœur. C'est The Miranda Brothers qui publie ça chez Aftershock Comics. Ça s'appelle We Live. Et on a Eva Delacruz et Dave Sharp. Sharp. Voilà, peut-être un des deux. Qui sont sur ce titre. Et à l'heure actuelle, il y a deux chapitres. We Live, c'est une mini qui est prévue, si je dis pas de bêtises, en 6, je crois. Je vous mettrai les détails une fois le podcast publié. We Live, en fait, c'est à l'approche de la fin du monde après que les envahisseurs aient débarqué sur Terre. Enfin, pas qu'ils aient débarqué. Ils ont envoyé des sondes avec un message en disant « À telle date, on vient vous défoncer sur la Terre parce qu'il y en a marre. » Et dans le même temps, ils ont reçu un message qui dit « À telle date, nous pouvons sauver votre espèce sous certaines conditions qu'il faut remplir, il faut faire ça. » Ces conditions, c'est d'envoyer des représentants de l'espèce humaine, en fait, dans des capsules qui seront sauvées pour éviter l'anéantissement de la menace qui a envoyé les premiers messages. Alors, très clairement, on ne va pas trop s'intéresser à qui a envoyé les messages d'extermination, qui a envoyé les messages de sauvetage. On va s'intéresser à la population humaine qui, à quelques heures du grand départ, vont devoir traverser un monde inhospitalier et qui a complètement changé pour amener les gens identifiés à leur point d'extraction. Donc globalement, ouais, on a...
Je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est ces gens qui doivent être sauvés. En fait, ils sont 5000 et c'est des enfants.
Voilà.
Ce n'est uniquement que des enfants qui peuvent être sauvés par le biais de... par ces extraterrestres qui ont condamné l'humanité.
Du coup, voilà, sur ces deux premiers chapitres, on a ce pitch-là. Alors, moi, déjà, ça a été un coup de cœur parce que graphiquement, c'est ultra beau. C'est vachement coloré, c'est un monde, même s'il est. C'est un peu post-apo, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, c'est très lumineux, il y a des monstres. Ça m'a un peu fait penser à The Wood dans le bestiaire, mais. On a un côté un petit peu, c'est presque trop poussé ce que je vais dire, mais un peu à la Miyazaki en fait, un petit peu enchanteur, de par les couleurs, je pense clairement. Mais moi j'ai adoré ça, en plus il y a des petits QR codes qui nous fournissent un lien vers la chaîne YouTube des auteurs, et ils nous proposent des petites musiques pour lire en même temps, pour voyager un petit peu avec cette découverte. Et moi, ça a été un vrai coup de cœur. Dans le numéro 1, on voit justement un premier groupe en fait avec lequel on va partir à l'aventure. Et moi j'adore en fait le look du papy chasseur qui va être en fait le gardien de ce premier groupe d'enfants. Je sais pas, toi, sans trop en dire, je sais pas, peut-être après on parlera du chapitre 2, c'est pas grave. Mais sur ta lecture, t'en as pensé quoi?
Alors moi, sur ma lecture, déjà, bah, comme tu disais, on en a parlé avant le podcast, avant l'enregistrement, mais moi, c'est un titre que je n'avais pas forcément sélectionné. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça c'est pour Fab. Et c'est vrai que la lecture, je me suis dit, voilà, c'est le genre de choses que je pense que tu aimes et qui est une lecture un peu, ouais, un peu féerique, un peu dans un monde un peu à part, avec un bestiaire un peu particulier. Cette histoire d'enfants qui vont être sauvés par les extraterrestres, c'est bien foutu. Enfin voilà, c'est bien foutu. C'est dans le futur. Il y a eu des guerres, il y a eu etc. Et suivre ce groupe d'enfants qui finalement, voilà, ce qui est important dans ce titre, ce sera pas, je pense, la destination, mais ce sera plutôt le voyage, les aventures qui vont leur tomber dessus pendant ce voyage. Ce papy chasseur, effectivement, il est attachant. Bon, il ne faut pas trop s'attacher,
C'est clair.
comme dans tous les bouquins. Et là, je spoil un petit peu, je suis désolé. Mais voilà, non, c'est un beau titre. Je te rejoins aussi sur l'histoire de. Ça se rapproche un petit peu de Miyazaki. Peut-être pas dans le graphisme particulier ou dans la féerie, mais quand même un petit peu. Il y
C'est
a
l'ambiance en
un petit
fait.
arrière-goût. Ouais, il y a un petit arrière-goût de Miyazaki, un petit arrière-goût de féerie, de monde fantastique. Limite, on ne se croirait pas sur Terre.
Ben c'est ça en fait. On sent que quand même il y a eu tout un background qui nous est expliqué très rapidement, mais de manière intelligente. Il n'y a pas eu besoin de s'attarder, tu vois, trop longtemps. Avec juste un petit flashback, on comprend très vite ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu et comment on en est arrivé là. Mais enfin, moi j'adore les designs du petit gamin qui a sa tête de renard robotisée. Il y a un autre gamin qui a un bras cybernétique. Hein. Enfin, vraiment, il y a tout un univers qui est cohérent et qui fonctionne. Et moi, ça a été vraiment un coup de cœur, quoi. Sur deux chapitres, ils ont su direct me séduire. Pour être franc, je l'avais vu à l'annonce des sollicitations VO. Je m'étais dit, à lui, je me prendrai le 1 pour voir. J'ai oublié. Non, mais qu'une galère pour trouver le numéro 1. Il a été en rupture de stock parce qu'apparemment, pas tiré à de nombreux exemplaires. Il y a eu un second printing qui a été out of stock quasiment instantanément, et il y a eu un troisième printing qui sort là en décembre et qui est pas loin de l'épuisement aussi ou quelque chose comme ça. Faut dire aussi que
D'accord, t'as réussi à le trouver en format papier.
ouais, j'ai eu le format papier qui plus est. Alors je l'ai eu en second printing. C'est le premier, deuxième et troisième, c'est la même cover, c'est juste la variante de couleur qui change. Par contre, c'est une cover wrap-around, comme ils appellent. Et
Ah, qui fait tout le tour.
ouais, mais qui fait le tour et surtout qui se déplie. Donc, on a une cover sur trois faces qui est vraiment magnifique. Et le rendu papier est vraiment sublime, quoi. C'est un truc, vraiment un gros coup de cœur pour cette série. Deux chapitres à l'heure actuelle, le troisième sort la semaine du 8 décembre. Donc j'ai hâte de lire ce numéro 3. Et pour moi, c'est un gros coup de cœur. Mais j'en reparlerai, je pense, une fois la série finie. J'en ferai un bon article bien complet. Mais n'oubliez pas, notez-vous dans un petit coin We Live, parce que ça vaut vraiment la lecture.
Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que l'histoire est bien ficelée. Elle avance ni trop vite, ni trop lentement. Donc pour une mini, c'est vraiment très bien, parce que ça a tendance à aller un peu trop vite sur les mini. L'histoire, le titre est à la croisée, franchement, de la fantasy, de la SF, du conte.
Ouais, un petit
et il y a un bon équilibre dans cette histoire. Franchement, le dessin est beau, c'est des aventures qui arrivent aux gosses sont intéressantes, sont pas mièvres en plus. Enfin voilà, c'est pas.
Après, il faut dire.
C'est pas du sale gosse, c'est pas du chouineur. Non, franchement, c'est intéressant, c'est bien à lire. Je pense que moi, je vais continuer également sur la suite de la série.
Après, il faut dire aussi, c'est chez Aftershock, donc c'est pas connu pour être des séries plutôt jeunesse, c'est quand même des titres matures, hein, au vu de ce qu'ils ont déjà produit. Donc, ça a un certain axe d'écriture, je pense.
Oui, je pense que la politique éditoriale de chez Aftershock est intéressante. Enfin, moi, j'ai toujours aimé l'éditeur, c'est dommage qu'on ne le retrouve plus trop en France. Mais voilà, c'est toujours des séries qui sont intéressantes. Et là, pour le coup, We Live, le scénario et le dessin des frères Miranda est vraiment complémentaire et donne envie d'aller voir la suite, quoi.
Ben, carrément. On vous en reparlera très prochainement. On va basculer sur, on va dire, quelque chose de totalement différent du bon French Comics qui symbole les années, pas 90, mais plus 80.
80.
Avec du Micros Photonic et un Saltarella Blue Line que tu vas nous présenter, parce que celui-là, moi, je n'ai pas eu le temps de le lire.
Alors déjà, c'est assez compliqué de les trouver. Moi, à titre perso, j'avais loupé le Micros Photonic quand il est sorti sur son premier printing en couleur. Et lorsque Original Watts a sorti le fascicule en édition Blue Line, je me suis jeté dessus. Alors la Blue Line, c'est en fait un facsimilé des planches originales de Jean-Yves Miton.
Okay.
Parce que Micros versus Photonic, c'est par Jean-Yves Miton, scénario et dessin. Si Rotota n'est pas impliqué dedans, enfin, je pense qu'il doit quand même l'être un petit peu, qu'il doit valider puisque Photonic lui appartient. Mais voilà, c'est du 100% Miton. Bon, pour moi, c'est clairement Micros Photonic, c'est les héros de ma jeunesse. Hein. On a en fait actuellement les 40 ans des deux personnages. Il y a d'ailleurs chez... je crois que c'est aux éditions Black and White, et il y a un nouveau volume qui s'appelle Supero sur les 40 ans du magazine Titan, que je vous conseille d'acheter également. De vous dépêcher, parce que ça va être également épuisé rapidement.
Et si, enfin, si voilà. Je ne dis pas de bêtises, la fin de Photonic sera exclusive aussi à Black and White, non?
Alors la fin de Photonic, la fin de Photonic sera exclusive à Black and White et édition Black and White. Et c'est chez Original Watts que paraît Super-Hero, le 40 ans du magazine Mustang.
D'accord, voilà. Ok.
En fait, chaque éditeur a son personnage. Généralement, on trouve Micros chez Original Watts et Photonic chez Black and White.
Ok.
Cette édition-là, Blue Line, était entièrement en noir et blanc. C'est pas des pages crayonnées comme on pourrait le croire, parce que moi au début j'ai cru que c'était les crayonnés bleus.
D'accord, oui, je vois.
Qui seraient imprimés, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les pages en noir et blanc.
Mais c'est assez bizarre d'avoir appelé ça Blue Line, du coup.
Oui, du coup, c'est assez bizarre. Moi je m'attendais vraiment à voir le crayonné des pages, et c'est les pages ancrées, c'est du vrai noir et blanc, on n'a pas du tout la couleur. Voilà,
d'un côté, t'as mieux, parce qu'on se rapproche un peu plus de l'édition que t'avais ratée au départ.
C'est ça. Et on se rapproche un peu plus de cette édition-là. Alors, il y a plusieurs titres qui existent, hein, en ce qui me concerne. Moi, j'ai pour l'instant le Micros versus Photonic et le Saltarella de Midnos, qui est un one-shot également, qui est entièrement dédié à Saltarella. Sur le Saltarella, en plus du noir et blanc, on a quand même quelques dégradés de gris pour les rendus graphiques, ça passe un peu mieux. Si on repart sur le premier titre, Micros versus Photonic, en fait, on suit un jeune garçon qui modèle des répliques grandeur nature de ses super-héros préférés, Micros et Photonic, forcément, mais également de leurs comparses, Krabby, Saltarella, Ziggle et Tompous. Pour faire bonne mesure, il a également fait en grandeur nature des répliques de leurs ennemis. Et par une belle nuit d'orage, ces créatures prennent vie, et grâce à sa télécommande qui ressemble à une tablette, il va les faire s'affronter dans le ciel parisien. Voilà, grosso modo, le pitch de l'histoire, donc, qui va amener Mycroft à affronter Photonic alors que les deux sont copains.
En fait, c'est autant... limite un délire d'enfant qui joue avec ses figurines, quoi.
C'est ça, oui, mais c'est totalement ça. C'est un délire d'enfant qui joue avec ses figurines et qui se dit, bah, tiens, je vais faire me battre ces petits trucs en plastique. Alors moi, tu vois, autant je me prosterne devant Miton parce que non seulement le bonhomme est adorable, mais en plus, voilà, il a réussi à imposer un vrai style graphique et puis à imposer le super-héros made in France, les premiers French Comics. Grand public, s'entend. Mais je dois avouer que ça sent un peu réchauffer son histoire. Graphiquement, il n'y a rien à dire. C'est beau, c'est superbe, c'est net, c'est précis. Le noir et blanc, en plus, sublime un petit peu le dessin. Donc, c'est vrai qu'on a des planches qui sont... franchement, il n'y a rien à redire. Autant la thématique du jeune garçon surdoué qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, parce qu'il a été trop choyé, la destruction gratuite, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça moyen au niveau histoire. Autant, tu vois, il serait intéressant et, de voir Mycroft et Photonic s'affronter réellement pour une raison X ou Y. Ça, c'est un scénariste déterminé. Mais autant, enfin voilà, là, leur affrontement dure deux pages en plus. C'est assez décevant. En plus, si voilà, si je ne vais pas vous spoiler la fin, mais la façon dont ça se termine. Non, franchement, voilà. Moi, au niveau dessin, c'est magnifique. Au niveau de l'histoire, c'est super moyen, quoi.
Ouais, du coup, plutôt déçu de ta lecture là.
Ouais, plutôt déçu de ma lecture, content de retrouver Miton au dessin et puis des héros que j'aime finalement. Comme tu disais, c'est les années 80, c'est il y a 40 ans, pas tout le temps que ça déjà. mais voilà, c'est assez décevant au niveau de l'histoire. À côté de ça, on a aussi en Blue Line et, qui est sorti Saltarella Nuit de Noces. Donc il y a également un one-shot, sachant que Microsoftonic est aussi un one-shot. Hein. Donc c'est un one-shot au format comics. Saltarella Nuit de Noces, sa Priscilla Conway, donc l'alter ego de Saltarella, kidnappée par le dernier roi des Sviz, qui sont les extraterrestres qu'ils ont combattus au tout début de leurs histoires, donc Termitor. Et Termitor qui veut perpétuer son espèce en donnant naissance à une nouvelle ruche, en s'accouplant à Saltarella. Donc là, par la suite, Mycroft et Krabi, vont se lancer à son secours, mais voilà, pas vraiment besoin d'aide, Saltarella. Donc là, sur ce titre, c'est vraiment une vraie histoire, ça fait du bien, parce qu'on retrouve nos héros. L'histoire met l'accent sur Salty, qu'elle soit femme ou sauterelle forte, qui n'a pas besoin de l'aide de ses deux compagnons masculins pour s'en sortir. Voilà, mis à part le comportement de Termitor, qui quand même tente de la violer à multiples reprises, ça fait un peu moyen, mais voilà, le comportement des personnages, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est tout le monde est vraiment dans son rôle. Autant, tu vois, le Mycroft versus Photonic m'avait déçu au niveau de l'histoire, autant celui-là, on est vraiment sur une histoire de Mycroft, et ça ferait un bon prologue à un vrai retour de l'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de relire régulièrement des histoires de Mycroft, et ça ferait un bon prologue pour un retour gagnant, je dirais, de cette équipe.
À savoir, est-ce que ça leur va bien d'écrire juste du one-shot comme ça, qui n'engage à rien, ou repartir sur une série au long cours voilà. Parce qu'après, il faut avoir des idées de scénario qui sentent pas le réchauffer, parce que comme tu dis, ça a 40 ans, donc ça a 40 ans d'existence, il faut arriver à renouveler le genre, et apparemment, sur le one-shot Mycroft Photonic, ça n'a pas été le cas. Du coup...
C'est ça, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu un one-shot qui était Mycroft Photonic qui était sorti chez Delcourt, il me semble qu'il y avait un Mycroft Photonic qui était sorti chez Delcourt il y a quelques années, et voilà, c'était beaucoup plus intéressant à ce moment-là.
À voir. Pour les amateurs des personnages et surtout les connaisseurs, parce que de ce que tu disais tout à l'heure sur Saltarella, si tu n'es pas connaisseur du personnage, je ne suis pas certain qu'en prenant ce one shot, tu aies toutes les clés pour passer un bon moment ou arriver à comprendre les enjeux.
Alors, je pense qu'en soi, c'est quand même expliqué. Enfin voilà, il y a quand même des retours au niveau du volume sur l'histoire, sur le passé avec les vises et tout ça. Après, c'est aussi, je pense, la politique éditoriale d'Original Watts de produire des one-shots réservés à des gens qui connaissent. Ils produisent un tirage assez limité. Donc c'est vrai que c'est assez, assez compliqué de trouver si tu l'achètes pas dès que ça sort ou si tu ne le pré-réserves pas. Les versions collector, par exemple, avec des blanques éditions, etc., sont très vite épuisées. Donc voilà, je pense que c'est quand même
du public
du
niche,
tirage
en fait.
Confidentiel.
Pardon? C'est du public niche, en fait.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un public niche. C'est fait pour les vieux comme moi qui sont contents de retrouver les héros de leur enfance.
Bah, tu sais, je suis beaucoup plus jeune. Enfin, beaucoup plus jeune, tout est relatif. Hein. Mais moi, j'avais croisé Ciro Tota sur la Comic Gone de Lyon et je m'étais pris le tome 1 de Photonic Black and White. Parce que le personnage me parlait des premiers Stranges, hein, c'est là-dedans que je l'avais vu, et ça m'a fait plaisir de relire ça. Ça a un peu vieilli, on va pas se mentir, mais il y a quand même un petit côté super-héroïque, une espèce d'équivalence à ce qui se faisait dans le Strange à l'époque, avec le Spidey, les Captain America. On sent la mouvance de cette génération-là, et le bouquin était de qualité, et ouais, moi j'avais trouvé ça plutôt sympa à lire.
Oui, effectivement, je pense que si celui qui a déjà aperçu des personnages, qu'ils ont été publiés dans Mustang, Titan et Spidey, si je me souviens bien, c'est toujours sympa de pouvoir les revoir. Après, voilà, comme tu disais, je pense que c'est quand même du comics de niche. Ça nécessite quand même une petite connaissance du personnage où il faut vraiment aller chercher. Original Watts n'est pas non plus un gros éditeur, c'est pas Delcourt, c'est pas Panini. Bon voilà, c'est vraiment ça s'adresse surtout aux connaisseurs. Et je crois que je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Donc Sub-Hero, l'ouvrage hommage aux 40 ans du magazine Mustang, c'est aux éditions Black and White.
D'accord, ouais. Oui, parce que tu me l'avais dit, c'était chez Original Watts.
Ouais, voilà, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux entre les deux. C'est vrai que comme on retrouve là, avec Micros Photonic, on retrouve du Photonic chez Original Watts, du Photonic chez Original Watts, et avec le Super-Hero, on retrouve du Micros chez Black and White. Donc, mais voilà. Le Mustang, l'hommage à Mustang Super-Hero, c'est chez Black and White.
Du coup, vous l'aurez compris.
Micros versus Photonic et Saltarella, les Blue Line, c'est chez Original Watts.
Du coup, dans tous les cas, si vous cherchez quelque chose, il faut aller chez Original Watts et chez Black and White. Il y aura tout ce dont on a parlé.
Tout à fait.
Du coup, je te propose de conclure sur un petit peu de manga. Moi, c'est un tome que je suis allé lire parce que j'ai découvert l'auteur récemment. Il s'agit de Naoki Urasawa. Alors, je suis désolé parce que j'ai fait un podcast aussi récemment où je me suis fait reprendre sur mon accent japonais qui n'est pas très bon. Mais en même temps, je ne suis pas japonais. Donc, je vous redis, c'est Naoki Urasawa qui présente Yawara. Alors, Yawara, en fait, c'est une histoire toute simple d'une jeune adolescente qui est entraînée depuis sa plus tendre enfance par son grand-père à faire du judo, et le seul objectif de son grand-père, en fait, c'est de viser la médaille d'or au JO. Et pour ce faire, en fait, il a un plan qui est rodé et qu'il planifie depuis des années. Il va entraîner Yawara pour la faire apparaître que au dernier moment face à ses adversaires pour les JO. Comme ça, personne ne sait qui elle est, personne ne sait d'où elle vient, elle surprend tout le monde. Et genre, il s'est fait ses films, tu vois, genre la super-héroïne du Japon qui gagne la médaille au judo pour le Japon. Et c'est son plan initial. Sauf que Yawara, elle n'est pas super d'accord. C'est une adolescente, Donc, elle commence un petit peu à avoir l'âge, tu vois, de flirter avec les garçons, de faire du shopping. Quand elle voit ses copines qui passent des après-midi à aller faire du lèche-vitrine, elle, elle est obligée d'aller au dojo pour s'entraîner et répéter un petit peu tous ses mouvements et tout. Donc, elle va tout faire, en fait, pour abandonner le judo, en fait. Et on va suivre, donc, cette adolescente qui est entre vouloir faire plaisir à son grand-père, mais en même temps avoir envie d'une vie d'adolescente toute simple. Donc, à l'heure actuelle, il y a 2 tomes. J'ai reçu le tome 2, là, dans la semaine. J'ai pu le lire. Et on est vraiment toujours dans ce même scénario, sauf que dans ce tome 2, on va avoir Yawara qui va manigancer le fait d'organiser un combat face à la championne de judo japonaise pour justement dire, voilà, elle perd comme ça, plus personne ne sait qui elle est, etc. J'ai oublié un tout petit détail, c'est que dans le tome 1, il y a une espèce de rivale qui apparaît, qui est douée dans tout ce qu'elle fait. Alors elle est très riche, donc elle peut se payer des coachs un petit peu pour tout. Et cette rivale va décider un peu d'elle-même de devenir la rivale de Yawara. Donc Yawara n'a rien demandé, elle va se retrouver avec cette rivale-là. Et suite à cette espèce de face-à-face, il y a un journal de sport qui va suivre Yawara pour arriver à dire que c'est la petite fille d'un grand judoka, qu'elle est prête, elle est super forte, etc. C'est ça qui va amener au combat dans le tome 2 pour que Yawara se laisse perdre et qu'on lui foute la paix en fait pour qu'elle mène sa vie d'ado tranquille. Donc entre ça, entre petites romances à côté, on a un manga qui est digne ouais, des années 90, tu vois, un petit peu à la Ranma 1/2, Nicky Larson, c'est gentillet, c'est assez drôle. Par contre, l'écriture est très très bonne à Naoki Urasawa. Il a le don pour écrire ses personnages, autant les personnages principaux que les personnages secondaires, qui au début n'apparaissent que sur quelques cases. À la fin, on les voit vraiment comme des personnages qui ont aidé à l'évolution de Yawara. Et c'est vraiment un manga coup de cœur, quoi, parce que c'est prévu en 3 tomes. Et Kana les sort dans une édition Kana Big. Là, c'est des Kana qui sont.
Les plus
Ouais, au
grands,
format
plus
un peu,
surdimensionnés par rapport
c'est
aux
ça, un
autres.
peu plus gros. Et c'est vraiment plaisant à lire. Moi, je passe vraiment un bon moment sur la lecture. C'est presque dommage qu'il n'y ait que 2 tomes, quoi, à l'heure actuelle.
Par contre, enfin voilà, moi je j'ai pas lu le manga, j'ai profité du site de Kana qui permet d'avoir un extrait sur le premier chapitre. Je te rejoins un petit peu sur l'histoire des années 90. C'est vrai qu'au niveau du dessin, ça ressemble un petit peu à des mangas old school, comme on pouvait voir, style Maison Ikkoku, donc Juliette Je t'aime, ou Ranma 1/2. Enfin voilà, c'est les personnages ont vraiment des grands yeux. C'est un graphisme qui ressemble à ce qui se faisait il y a quelques années, qui n'est pas désagréable au final, hein, mais qui voilà, qui donne cette impression-là. Après, moi j'ai toujours des petites réticences sur les mangas de sport, parce que quand tu ne connais pas le sport en question, c'est déjà plus compliqué de t'y intéresser, je trouve.
Ouais. Alors moi perso, j'avais fait du judo, ça m'a pas. En fait, ça m'a rien apporté entre guillemets, parce que c'est plus ce qui tourne autour de l'objectif du grand-père, tu vois, de faire de Yawara une championne,
Oui.
que vraiment le judo en lui-même. On voit quelques combats, elle s'inscrit à un club de judo, mais c'est pas le cœur vraiment du manga, c'est plus toutes les relations et tout ce qui fait que Yawara va ou ne va pas faire ce match, va ou ne va pas faire de judo, et un petit peu comme tout ce que fait Naoki Urasawa, moi je l'ai découvert sur Asadora. Et Asadora, c'est la même chose. On a dès le début le pitch de départ avec donc un événement qui arrive pendant un tsunami, etc. Et tout le reste, c'est du travail de construction du personnage qui font avancer l'histoire.
D'accord.
Donc tu sais que tu as une trame là dans Yawara sur le judo, mais c'est ce qui se passe autour c'est ce qui gravite autour du judo, en fait, qui fait avancer le manga et qui fait grandir les personnages. Et moi, je trouve que c'est cette façon que Urasawa il a de construire ses histoires et ses personnages qui fait l'intérêt du manga, en fait.
D'accord, donc même si on ne pratique pas le judo, le manga est intéressant, et c'est justement cette interaction entre les personnages, cette construction de l'histoire et de la narration qui permet de faire avancer. Je suis en train de regarder en même temps le petit extrait. C'est vrai que le grand-père, il a une vraie tête, quoi.
Ouais, mais complètement. Après, il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans ces formats Big Kana. C'est que Kana les a publiés avec les pages couleurs qu'il y a dans le Shonen Jump. Donc, on retrouve vraiment la colo, tu vois, un petit peu palote, avec des couleurs un peu rouge, rose pour les visages, le petit bleu pâle, le vert très pâle, un petit peu comme si c'était de l'aquarelle, tu vois. Et
Oui, c'est vrai que c'est pour avoir vu ces pages-là, c'est vrai que c'est sympa aussi. Enfin voilà, ça donne un petit côté intéressant à ces pages. Surtout que ce que j'en ai vu, c'est pas toute la page qui est colorisée, ce sont que les personnages et certains éléments du décor.
Tout à fait, ouais. Et du coup, ça apporte vraiment un petit plus dans la lecture. Tu vois, comme c'est du manga, on va rien vous apprendre, c'est tout en noir et blanc. Mais du coup, au milieu, t'as quelques pages qui marquent un chapitre important ou quelque chose comme ça dans l'histoire. Et ouais, moi je trouve que l'édition est assez cool. Alors par contre, elle est quand même un tout petit peu chère. J'ai plus le prix de mémoire, mais je sais que c'est plus d'une dizaine d'euros, je crois, le tome.
Ouais, c'est 15 euros, voilà. En fait, le tome.
Donc c'est quand même un poil cher pour du manga grand format, parce qu'au final, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais franchement, Yawara, c'est une belle lecture, quoi. Et globalement, jusqu'à présent, tout ce que j'ai lu de Naoki Urasawa, c'est des coups de cœur à chaque fois. Donc là, j'ai lu Asadora, j'ai lu Yawara, et je suis en cours de lecture de Monster. Donc j'attaquerai plutôt après, mais j'en reparlerai probablement, puisque voilà, c'est une de mes découvertes de l'année, Naoki Urasawa et Inio Asano. C'est deux mangaka que vraiment, j'ai été très surpris des titres que j'ai lus de.
Ok, donc à tester.
Voilà, à tester. Moi, je vous recommande cette chouette petite lecture.
Bon, on le coche aussi sur la liste du Père Noël.
C'est ça. Du coup, nous, on va s'arrêter ici, à moins que tu aies une dernière petite recommandation bonus à partager.
Non, c'est pas de petite dernière recommandation bonus. J'ai une pile à lire assez conséquente à terminer. Donc j'aurai largement de quoi en parler. Allez, je vais quand même faire un petit point pub pour une production française. Vous aurez normalement incessamment la chronique sur le blog, mais je voulais parler un petit peu de Nightmare, qui est un projet mixte entre la bande dessinée et le bouquin qui a été financé par Ulule. Vous verrez bientôt je vous dis, la chronique sur le blog, mais voilà, je le conseille, et celui-là, vous pouvez aussi le mettre sur la liste du Père Noël.
C'est noté, ça fait un petit cadeau de plus pour les curieux. Nous, on va s'arrêter là, vous nous retrouvez comme d'habitude sur le blog au jour habituel de chronique, le lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche. La cadence risque de s'accélérer un petit peu, comme c'est bientôt les vacances. Comme chaque année, on va doubler un petit peu la production de chronique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Instagram sur lequel vous retrouvez aussi des chroniques exclusives que vous n'avez pas sur le blog. Du coup, vous pouvez jeter un œil, vous abonner, on essaie de faire vivre un petit peu les deux. Et évidemment, les chronicles qui sortent, soit en chronicle solo, soit en duo, voilà, avec des petits invités. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous recevrai. Et on pourra définir ensemble un petit sujet. Pour le reste, je te remercie beaucoup, Cyril, d'avoir pris un peu de temps avec nous.
Merci beaucoup.
Et
toujours un plaisir.
On vous dit à très bientôt.
À très bientôt, merci.